notre étude de la dernière fois, nous sommes le vendredi saint, au matin. Jésus donc a été condamné à mort par le Sanhédrin dans une rencontre, une réunion très matinale, puisque le Sanhédrin va ensuite aller se présenter à Pilate. Puisque si Jésus a été condamné à mort et convaincu de blasphème, puisqu'il a lui-même Il s'est présenté comme étant le Messie et le Fils de Dieu. Si Jésus donc a été condamné à mort, les Juifs n'ont pas en tant que tel le droit de le mettre à mort. Et donc ils vont y trouver le gouverneur romain, qui généralement rend la justice aux premières heures du jour. Donc ils vont le trouver tôt le matin, le vendredi saint. D'une part parce que donc Ponce Pilate, c'est son nom, rend la justice aux premières heures du jour, et aussi parce que ce jour est un grand jour, puisque c'est la veille de la Pâque, et donc évidemment que le Sanhédrin veut que tout soit réglé avant que les agneaux ne soient immolés et avant qu'on ne commence le soir à célébrer la Pâque. Donc il se présente au petit matin, là où se trouve Pilate, donc il y a deux hypothèses sur la localisation de Pilate pendant ses séjours à Jérusalem. Il y a l'Antonia, qui est le choix pris par la carte qui est au-dessus de moi. Donc, c'est-à-dire que Pilate logerait dans la forteresse qui abrite la garnison romaine et qui domine le temple, ce qui permettait donc aux Romains d'avoir un œil sur ce lieu de grande ébullition où la foule se pressait, où évidemment les résistants à l'occupant romain, et notamment les résistants religieux, pouvaient être en effervescence. Et on le verra bien plus tard avec saint Paul, quand saint Paul sera prêt d'être tué par les Juifs, et bien la section, l'escouade, enfin, la centurie de garde, en tout cas, descendra très vite de l'Antonia pour aller le retirer de la foule qui s'en prenait à lui dans le temple. Donc, ouais, il y a cette forteresse Antonia, donc, où se trouve la garnison romaine, donc on peut penser que Pilate logeait là, ou une autre hypothèse, c'est que Pilate loge dans le palais d'Hérode, et donc finalement le gouverneur romain prend la place de l'ancien roi et donc loge dans ce qui était le palais d'Hérode le Grand. Donc il y a deux hypothèses possibles. Tout ça pour dire que c'est donc Ponce Pilate que le Sanhédrin vient voir. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, dans les différents récits que nous avons, en dehors de l'Évangile, Ponce Pilate a plutôt mauvaise réputation. Il est plutôt présenté comme quelqu'un de d'assez noir, d'assez violent. Bon, il faut peut-être matiner ça en voyant qu'il est resté 10 ans en place, donc si vraiment son temps de gouvernement avait été si catastrophique et si sanglant et qu'il s'était vraiment mis le peuple d'Israël à dos, sans doute qu'il ne serait pas resté 10 ans. Donc voilà, Ponce Pilate, sans doute un gouverneur autoritaire, effectivement un gouverneur qui n'hésite pas à faire verser le sang quand il faut pour mater des révoltes, mais ce n'est pas non plus un dictateur. L'état d'esprit dans lequel il se trouve, on l'avait dit aussi il y a 15 jours, c'est sans doute quelqu'un qui regarde de haut les grands prêtres et les membres du conseil qui viennent le trouver, parce que lui est représentant de Rome, et eux sont quand même les grands prêtres d'un peuple vaincu qui se trouve aux confins de l'Empire. Bon, c'est un peu le trou, la Palestine par rapport à Rome. Et puis, donc, Ponce Pilate va assez vite comprendre que tout ce petit monde voudrait se servir de lui pour faire appliquer une sentence, mais dans laquelle on ne lui demande pas tellement de mettre son nez. Enfin, s'il avait le bon goût de faire condamner Jésus sans trop poser de questions, ça arrangerait bien ceux qui viennent le trouver. Mais évidemment, c'est pas tellement l'idée de Ponce Pilate, d'une part parce qu'il n'a pas envie de se faire manipuler par des gens que sans doute il méprise, et puis comme je vous le disais, parce que lui, il a aussi deux grands principes hérités de Rome, à savoir la tolérance en matière religieuse et l'importance de faire respecter le droit romain. Donc, les Juifs qui sont malins, en tout cas ceux qui se présentent à lui, donc ne vont pas dire que Jésus s'est présenté comme le Messie, puisque ça, ça lui serait plutôt indifférent, mais comme le roi d'Israël, et ainsi, eh bien, voilà, cette prétention à être roi peut être un chef d'accusation et de condamnation, puisque si on se fait roi sans l'aval de l'empereur, bah, naturellement, c'est un acte de rébellion à l'égard de l'empereur qui peut être passible de mort. Donc, nous reprenons au verset 2. Celui-ci l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. Donc, on peut remarquer déjà que l'affirmation de Jésus quant à sa royauté devant Pilate est beaucoup moins forte que quant à sa divinité devant le grand prêtre. Quand le grand prêtre lui dit « Es-tu le Messie, le fils du béni ?» Jésus dit « Je le suis. » Là, « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est toi qui le dis. Jésus se met en distance par rapport à ce titre. Non pas qu'il le refuse catégoriquement, puisque effectivement Jésus est roi, roi de tous, et donc aussi roi des Juifs, mais il se met en distance par rapport au contenu très politique que cette accusation, que ce titre pourrait porter. Ensuite, on peut noter évidemment la grande différence entre les grands prêtres qui multiplient les accusations, donc qui parlent, et au contraire, Jésus qui, à partir de ce moment-là, ne répond plus rien. On va voir que Pilate interroge à plusieurs reprises Jésus. Alors ces questions de Pilate, elles peuvent être motivées déjà par un fait, c'est que dans la législation romaine, l'accusé est présumé coupable s'il ne se défend pas. Donc ça peut être aussi pour Pilate une manière de clore assez vite l'affaire. Enfin, si je l'interroge et que je fais mention du chef d'accusation mais qu'il ne se défend pas, bon, ben, il est coupable et puis on arrête là. Ces multiples accusations, elles sont quand même aussi, elles sont sans doute en tout cas, dues à l'impression que Jésus fait à Pilate, cette grandeur, cette majesté, ce silence qui sans doute l'impressionne, et donc qui lui fait sentir que ce n'est pas un accusé comme les autres, et la virulence des grands prêtres, au contraire, à vouloir la condamnation, voilà, l'incite à une grande prudence, et sans doute plutôt à innocenter Jésus pour montrer que c'est lui le chef, c'est lui qui décide et qui ne sait pas mener par le bout du nez. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un nommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Mais qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort, crucifie-le. Donc, Pilate, comme je vous le disais, est plutôt enclin sans doute à innocenter Jésus. Malgré tout, il ne peut pas tellement trouver dans la défense de Jésus des arguments pour le relâcher, vu que Jésus ne dit rien. Donc, Pilate va se servir, ou espère se servir d'un petit subterfuge, à savoir, voilà, cette tradition que pour la grande fête de la Pâque, on relâche un prisonnier. Alors, on ne dit pas explicitement que Barabbas est meurtrier. On dit qu'il avait été arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. Donc, on ne dit pas explicitement que c'est lui qui a tué, mais qu'il a été impliqué, en tout cas dans une émeute, qui a fait un mort. Tout ça pour dire que c'est plus simple, évidemment, de relâcher et d'amnistier quelqu'un qui n'a pas tué plutôt que quelqu'un qui a tué. Donc, effectivement, la foule monte, non pas pour accuser Jésus, ce n'est pas le premier but de la foule monte là où se trouve Pilate, d'abord pour demander qu'on leur relâche un prisonnier. Les Juifs n'ont plus beaucoup de droits, ils sont dans un pays, ils sont donc occupés par les Romains, donc le peu de droits et de privilèges et de grâces qu'il leur reste, ils comptent bien le faire appliquer. Donc ils veulent la libération de ce personnage. Et comme je vous le disais donc il y a 15 jours, il y a évidemment un côté extrêmement tragique de voir Pilate avec d'un côté un émeutier, de l'autre côté l'innocent par excellence, mais qui porte d'une certaine manière le même nom, puisque Barabbas veut dire fils du père, et que Jésus est le fils du père par excellence. Donc il y a une vision évidemment tragique hein, de Pilate qui se présente sur le dallage, et puis la foule devant lui, donc voilà, excitée par le fait que c'est la fête, désireuse d'avoir, comme d'habitude, quelqu'un que l'on relâche, et d'un côté l'émeutier, de l'autre côté l'innocent, le Barabbas et le fils du père. Alors, comme le dit, je crois, Benoît XVI, c'est assez impressionnant aussi parce que chacun, et Barabbas et Jésus, représentent d'une certaine manière une espérance messianique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le messianisme par la violence, c'est-à-dire ben voilà, on fait une émeute peut-être justement pour chasser les Romains. Enfin voilà, à l'époque de Jésus, il y a beaucoup effectivement de faux messies qui vont se présenter et qui voudront justement s'imposer par la force, par la violence, et qui voudront se soulever contre les Romains pour bien montrer qu'ils sont le messie attendu par Dieu, donc celui qui va chasser les impies de la terre sainte d'Israël. Et puis de l'autre côté, il y a l'espérance messianique qui représente Jésus par la seule force de la vérité. C'est le dialogue entre Jésus et Ponce Pilate dans l'évangile de Saint Jean. Tu le dis, je suis roi et je suis venu pour cela, pour rendre témoignage à la vérité. Donc il y a ce tableau avec Ponce Pilate, d'un côté l'émeutier, celui qui veut rétablir le règne de Dieu par la violence, et puis de l'autre côté l'innocent qui veut établir le règne de Dieu par la vérité. D'un côté le fils du père, de l'autre côté le fils du père. Mais voilà, Ponce Pilate qui voudrait se servir de ce subterfuge va être vite débordé parce que la foule, manipulée par les grands prêtres, les scribes, tous ceux qui ont déjà fait condamner Jésus, eh bien, plutôt que de dire « oui, libère-nous Jésus », demande la libération de Barabbas et surtout, très vite, demande à ce que Jésus soit crucifié. Et donc là, on retrouve ces questions de Pilate, hein, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Mais qu'est-ce que je vais en faire ? Mais qu'a-t-il fait de mal ?» Donc on sent que voilà, Ponce Pilate va de plus en plus loin. Enfin, au départ, est-ce que vous voulez que je vous le relâche ? Bon, vous ne voulez pas que je le relâche ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Crucifiez-le, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Il est un petit peu étouffé et repoussé dans ses derniers retranchements. Et donc Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, dans cette flagellation de Jésus, il faut voir, je pense, deux choses. D'une part, que la flagellation, normalement, est obligatoire avant une crucifixion. Donc, ça fait partie, voilà, ça fait partie de la condamnation, normalement, le condamné à mort est flagellé. On peut penser aussi, en lisant l'évangile de Saint Jean, qui développe beaucoup plus ce face-à-face entre Jésus et Ponce Pilate, que d'un côté, Ponce Pilate fait flageller Jésus aussi pour contenter la foule, en espérant que la vision de Jésus, couvert de plaies, couvert de sang, vraiment humilié d'une certaine manière, apaise la violence et la soif de sang de la foule, et puis qu'elle se dise, bon, bah voilà, effectivement, il a déjà beaucoup souffert, et puis repartons sur autre chose. Donc voilà, il y a les deux choses, on peut lire cette flagellation de deux manières, soit effectivement comme l'application à la lettre du déroulé d'une condamnation à mort, ou bien, voilà, avec peut-être chez Pilate le secret espoir que ce Jésus dont il pressent bien l'innocence et voilà, qu'il voudrait sauver, il y a aussi, je crois, dans l'évangile de Saint-Luc ou Saint-Matthieu, je ne sais plus, l'intervention de la femme de Pilate aussi, qui lui dit voilà, de ne pas avoir d'ennui avec ce juste. Donc il y a sans doute tout ça qui se percute dans le cœur et la conscience de Pilate, qui fait que sans doute il aimerait innocenter et sauver Jésus, et peut-être que la flagellation sera un moyen d'apaiser la foule, mais en voyant que la foule ne se calme pas et cherchant plutôt à éviter un affrontement qui causerait sans doute des morts, qui n'est jamais très bien vu à Rome, où il doit assurer d'une réputation comme quoi il maîtrise la situation sur place, et bien, pour s'épargner des problèmes, pour peut-être sauver sa tête et sauver sa place, eh bien, il préfère condamner un innocent. Donc, évidemment, il y a tout un... Là aussi, il y a tout un face-à-face entre Jésus qui est dans la vérité jusqu'au bout, hein, qui a dit la vérité devant le grand prêtre, et il savait très bien que ça le mènerait à la mort, qui dit à Pilate qu'il est là pour rendre témoignage à la vérité, et puis de l'autre côté, Ponce Pilate qui secrètement, sent bien que la vérité serait du côté de la libération de Jésus, et qui malgré tout, eh bien, étouffe la voix de sa conscience, la voix de la vérité, pour un intérêt personnel. Évidemment, une bascule, un face-à-face entre Jésus et Pilate sur est-ce qu'on adhère à la vérité à tout prix, ou est-ce qu'à un moment, on baisse le rideau de sa conscience, parce que suivre la vérité nous entraînerait trop loin et nous ferait perdre trop d'avantages. Évidemment, c'est une question qu'on a tous à se poser. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, donc dans le texte original, toute la cohorte, normalement 600 hommes. Je ne sais pas si les 600 étaient là, mais en tout cas, ils ont rassemblé tous ceux qu'ils pouvaient. Ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Alors, cette scène, elle nous rappelle ce qui s'était passé déjà pendant le procès juif devant le Sanhédrin. Une fois que Jésus avait été condamné, les gardes donc l'avaient frappé, l'avaient mis sa tête donc dans un sac, en tout cas couvert d'un voile, et vous vous en souvenez, lui avait dit « c'est le prophète ». Et d'une certaine manière... Voilà, comme on avait dit, il y avait une ironie dans l'ironie, c'est-à-dire eux voulaient être ironiques à l'égard de Jésus, voilà, qu'ils voyaient plus bas que terre, et donc bien sûr que ce n'était pas un prophète, donc ils se moquaient de sa prétention à être le prophète, mais en réalité ils accomplissaient eux-mêmes une prophétie, puisque Jésus avait annoncé qu'il serait comme ça moqué et condamné. Et là, on a un petit peu la même chose, alors pas dans le registre forcément de la prophétie, puisqu'on est du côté des païens, on est du côté des romains, mais on a aussi quelque chose, puisque finalement les soldats veulent être ironiques à l'égard de Jésus, puisque ce qu'ils font, c'est une parodie de triomphe à la romaine. Salut roi des Juifs, ça le rappelle le Ave César. Le manteau de pourpre, qui n'est sans doute pas d'ailleurs de la pourpre, mais c'est un manteau rouge de soldat, mais sa marque emploie ce terme justement pour montrer que c'est un manteau royal, puisque la pourpre, c'est par excellence l'insigne des empereurs. Donc Saint-Marc veut nous montrer justement que on est dans cet entre-deux. C'est-à-dire les soldats ironisent en donnant à Jésus un triomphe à la romaine totalement ironique, une caricature, donc avec la salutation, avec le manteau rouge, avec la couronne de végétal qui rappelle la couronne de laurier qui était donnée aux triomphateurs. Alors là, évidemment, c'est pas du laurier, c'est des épines, mais voilà, on est dans cette parodie de triomphe, et en réalité, ben, Jésus, il est vraiment roi. Donc là encore, il y a une ironie dans l'ironie, puisque eux pensent se moquer d'un petit juif qui aurait des prétentions à être roi alors qu'il ne l'est pas du tout, mais en réalité, ben, il l'est vraiment. Et si on va chez Saint Jean, toute la construction et toute l'écriture de la Passion dans Saint Jean culmine justement dans cette scène du couronnement d'épines, à travers un jeu de parallélisme qui nous amène à ce couronnement d'épines. Parce que le message que veut porter Saint Jean, c'est que justement la Passion du Christ est vraiment son triomphe, elle est vraiment sa victoire, puisque c'est la victoire de l'amour surabondant qui donne sa vie, de l'amour divin qui est vainqueur du péché, du démon et de la mort. Et donc, là encore, il y avait une ironie avec ce titre de prophète. Effectivement, c'est normal que ce soit du côté des juifs qu'on ironise sur le titre de prophète. Mais Jésus est vraiment prophète, donc il y a une ironie dans l'ironie. Et du côté des païens, il y a une ironie sur le titre de roi. Mais en réalité, Jésus est vraiment roi, donc aussi il y a une ironie dans l'ironie. C'est l'arroseur arrosé. C'est le moqueur moqué. Quoi. C'est celui qui croit être plus malin, mais qui en fait se fait berner. Ouais. Je vous ai imprimé, avant qu'on sorte de Jérusalem et qu'on commence le chemin de croix, vous pouvez vous faire passer. C'est Fanny. Je vais juste faire passer un, et ça y est, la rigueuse, j'ai encore fait des feuilles. On va plier en A5. Je suis en dingue des feuilles A5. Et donc, sur ces feuilles, vous trouvez deux prophéties de la Passion. Alors, qui ne sont pas des prophéties de Jésus annonçant sa Passion, mais qui sont des prophéties bien antérieures, puisqu'elles datent au moins toutes les deux du 5e siècle avant Jésus-Christ. La première, c'est une prophétie d'Isaïe, qu'on appelle le chant du serviteur souffrant. Et c'est important de savoir que les apôtres avaient entendu cette prophétie. Alors peut-être que le jour même du Vendredi Saint, ils ne s'en sont pas souvenus, mais en fait, dans la lumière de Pâques, eh bien, ils ont relu sans doute ces paroles qui venaient de plusieurs siècles avant, et ça leur a permis de comprendre justement toutes ces humiliations de Jésus. Voilà, c'est la première méditation, première prophétie de la Passion. Donc comme je vous ai dit, datation minimum, c'est-à-dire que c'est voilà, au plus récent du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais il est possible que ce soit même 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc on est voilà, un prophète qui parle au peuple d'Israël et qui annonce ses paroles 7 siècles avant le Vendredi Saint. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, c'est-à-dire devant le lépreux. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui, par ses blessures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Parfois, on a appelé justement le livre d'Isaïe le cinquième évangile, parce qu'il y a des passages d'Isaïe qui sont, on a l'impression qu'il était là le vendredi saint dans la foule et qu'il décrit ce qui se passe, et lorsqu'il a vécu, donc, 6 siècles, 7 siècles avant que cela n'arrive, on peut penser qu'il a vu le vendredi saint dans une vision, qu'il a décrit à travers cette prophétie. Et puis on peut penser aussi aux apôtres qui, donc, après le dimanche de Pâques, dans la joie de la résurrection, mais aussi dans cette lumière de la résurrection, ou même après la Pentecôte, avec cette lumière de l'Esprit-Saint, ont relu ce texte et ont repensé au vendredi saint et ont mieux compris finalement ce qui s'était passé. Et on n'imagine pas que les apôtres n'aient pas pleuré en lisant ce texte d'Isaïe, et puis en se disant voilà, que ce Jésus qu'ils avaient côtoyé pendant 3 ans, qu'ils avaient vu ressusciter, donc ils savaient qu'il était le Seigneur, eh bien, voilà, il avait porté leur souffrance, il s'était chargé de leur douleur, de leur transgression, et c'était par ces blessures qu'ils étaient guéris, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et ces prophéties d'Isaïe permettra de comprendre aussi dans quel état d'esprit sont les apôtres après la résurrection, après la Pentecôte. C'est vrai, petit à petit, le lien entre les paroles de l'Ancien Testament et les événements du Nouveau Testament, eh bien, petit à petit, ce lien se fait en eux et tout s'éclaire. Et eux qui étaient dans les ténèbres les plus profondes le vendredi saint, bah, petit à petit, ils vont comprendre finalement pourquoi Jésus a vécu tout cela. Est-ce que vous avez des questions avant que nous sortions de Jérusalem? Oui. Oui.
Est-ce que c'est un silence en fait? Est-ce que pour ne prendre aucun risque du temps de se rencontrer et vraiment assumer voilà, la passion, la condamnation et la passion et la mort jusqu'au bout?
Alors, le silence de Jésus déjà devant Pilate est un peu moins absolu que saint Marc ne le dit, puisqu'on a quelques échanges quand même entre Jésus et Pilate dans l'évangile de saint Jean, qui est plus développé de ce point de vue-là, et sans doute que saint Jean, qui était sur place, qui avait ses entrées auprès des grands prêtres, donc qui a sans doute suivi Jésus, a un récit sans doute plus précis, et on voit effectivement dans l'évangile de saint Jean, bon, il n'y a pas non plus, ça ne dure pas des heures, mais il y a quelques échanges effectivement entre Jésus et Ponce Pilate. Jésus qui dit justement qu'il est venu pour rendre témoignage de la vérité. Jésus qui dit que Pilate n'aurait aucun pouvoir sur lui s'il n'était venu d'en haut. Jésus qui lui dit que finalement le péché de ceux qui l'ont livré à lui est plus grand que son péché de lâcheté qui va être de le condamner. Voilà, il y a plusieurs paroles fortes du Christ. Mais c'est vrai que le Christ, d'une part, voilà, a déjà été condamné, et, comme vous le disiez, donc il a déjà été condamné à mort, et il sait qu'il ne, enfin, je pense qu'il sait qu'il ne pourra pas s'en tirer, si ce n'est en abdiquant la vérité. C'est vrai qu'il dit qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas le roi, qu'il n'est pas le, voilà, donc de ce point de vue-là, ça ne sert pas à grand chose de parler. Mais ça sert à quelque chose de parler, c'est-à-dire ça sert déjà à dire la vérité, et puis ça sert aussi à ce que Pilate soit éclairé, hein, et que à la fois Pilate sache quand même qui est Jésus. Ça se coordonnait quand même de rencontrer son sauveur. Donc, si Jésus ne se taisait d'un bout à l'autre, finalement, ce serait peut-être pas très juste, parce que c'est bien aussi qu'il dise à Pilate qui il est, ou en tout cas qu'il aille aussi loin que Pilate est prêt à entendre. Et puis, c'est important, voilà, que Pilate puisse se prononcer en conscience. Donc, voilà, donc je pense que Jésus dit juste le nécessaire, à la fois pour bien maintenir la vérité de son identité, et puis aussi pour que Pilate puisse faire son choix en toute connaissance de cause. Donc, c'est un petit peu des... Voilà, ce sont des indications, finalement, pour nos propres silences, c'est-à-dire que nos silences ne doivent jamais être au détriment de la vérité. C'est-à-dire nos silences ne doivent jamais être des complicités par rapport à l'erreur, par rapport au péché, ne doivent jamais être des silences par omission qui font que, par notre silence, on serait complice en quelque chose, d'une contre-vérité ou d'un mal. Après, c'est important, c'est intéressant aussi de noter que Jésus, qui avait enseigné que si on te frappe sur la joue gauche, tend la joue droite, quand on le frappe, justement encore dans l'évangile de Saint Jean, quand un serviteur du grand prêtre le frappe, il dit « Ah, si j'ai mal fait, dis-moi ce que j'ai fait de mal, et si j'ai bien fait, pourquoi me frappes-tu » C'est-à-dire que le Christ lui-même, à ce moment-là, ne garde pas le silence, parce qu'il veut justement mettre ce serviteur, cet homme, devant son injustice. Pas pour l'enfoncer, mais pour l'éclairer. Et là encore, c'est une bonne pierre de touche, c'est une bonne limite en tout cas à mettre à nos silences. C'est-à-dire, est-ce que nos silences sont inspirés par la charité ou est-ce qu'ils sont inspirés par la lâcheté? Et s'ils sont inspirés par la charité, ça veut dire que ce sont toujours des silences qui sont en accord avec la vérité. Il n'y a pas de plus grande charité pour l'intelligence du prochain que de lui dire la vérité. En revanche, effectivement, il peut y avoir des silences où une fois qu'il n'y a plus rien à dire, une fois qu'on a éclairé, une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, il y a un moment, mieux vaut garder le silence. Mais une fois qu'on a éclairé. Et ce qui nous montre d'ailleurs que ce commandement de Jésus sur le fait de tendre l'autre joue, comme beaucoup de paroles de Jésus, n'est pas d'abord une parole qui vise une application matérielle. C'est-à-dire que Jésus ne dicte pas d'abord une attitude extérieure. Jésus dicte une attitude du cœur. C'est-à-dire, voilà, si on s'en prend à vous, eh bien, ne soyez pas dans la haine, ne soyez pas dans la vengeance, ne cherchez pas à rendre le mal pour le mal, mais au contraire, gardez à l'égard du prochain cette charité qui fait que, eh bien, si c'est nécessaire pour garder la charité de tendre l'autre joue, il faudra tendre l'autre joue. Mais ça ne veut pas dire que dans tous les cas, il faut toujours tendre l'autre joue, puisque là, typiquement, le Christ, à ce moment avec le serviteur, ne tend pas l'autre joue. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais il me semble que le silence de Jésus, c'est d'abord pour la vérité de sa personne, pour éclairer Ponce Pilate, pour qu'il fasse un choix en conscience, et donc ça nous aide aussi à voir aussi, je pense, nos silences. C'est vrai que le silence est très important. Alors, je ne sais pas si vous recevez la lettre des serviteurs des pauvres du tiers-monde. Ouais. Mais alors, pas la lettre, pas le petit dépliant où il y a les missions, mais la grande lettre qui s'appelle, je crois, Ut Humanitim. Et il y avait un très beau développement, justement, d'un des pères qui faisait un article sur le silence, où justement, il faisait la différence entre les bons silences et les mauvais silences. Et justement, entre les bons silences, qui sont des silences où on s'ouvre à la présence de Dieu, et puis les mauvais silences, qui sont justement compromission avec le mal et des silences de lâcheté. C'est un bel article. Donc, je l'ai jeté.
Il y a aussi le silence de Pilate, parce que quand Christ dit qu'il est la foi, la vérité, Pilate qui qu'est-ce que la vérité, qui sort le Christ.
Oui, alors c'est
infini.
C'est toute l'ambiguïté de Ponce Pilate, parce qu'il n'était pas obligé de poser cette question, donc on sent que cette question quand même elle le taraude, et cette question clairement elle n'est pas prévue dans l'interrogatoire classique du procurateur romain. C'est une question qui dépasse le cadre d'un procès, donc on sent que ça le taraude, mais sinon il ne va pas jusqu'au bout. C'est sûr que c'est le drame de Pilate. C'est sûr, contrairement aux grands prêtres, qui eux ont l'impression que d'un bout à l'autre, depuis bien avant les rameaux, jusqu'au moment où le Christ meurt, ils sont sur des rails et ils ne veulent que ça. Et encore au pied de la croix, ils sont à invectiver le Christ, etc. C'est sûr que Ponce Pilate, c'est beaucoup plus torturé. Il est toujours en balance. C'est sûr que comparé à saint Thomas More, bon, bien des siècles après, saint Thomas More, donc premier ministre d'Henri VIII, bon, lui, il va jusqu'à la mort pour ne pas dévier de la vérité. Et c'est en cela le saint patron, justement, est le modèle des hommes politiques, alors que Ponce Pilate, malheureusement, sans doute, bon, tout n'est pas expliqué dans l'évangile, mais on peut penser qu'il sacrifie le Christ pour sauver sa place. Parce qu'ils se rendent bien compte que relâcher le Christ dans ce climat d'effervescence de la Pâque, où il y a quand même, on pense, 500 000 personnes à Jérusalem pendant les fêtes religieuses, que ça risque de devenir incontrôlable. Et donc, c'est bien intéressant sur la notion d'ordre public par rapport à la vérité. Parce que finalement, le maintien de l'ordre, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique, parce que si c'est un ordre qui est construit sur l'erreur, c'est plus un ordre, en fait.
Oui. Mais c'est vrai que Jésus, il répond quand même, c'est toi-même qui le dis, c'est quand même, tu pouvais dire de plus fort et de plus...
Non, mais bon, c'est toi qui le dis, c'est pas une affirmation non plus extrêmement forte. Si vous me dites, monsieur l'abbé, je vous ai vu sortir de boîte de nuit à 1h du matin, je vous dis, bah, c'est vous qui le dites. Donc c'est pas une affirmation. C'est pas quand même, comme on disait devant le Sanhédrin, où il dit « je le suis ». Là, c'est vraiment « je le suis », là, ça commence, c'est moi qui m'implique. C'est toi qui le dis, ça veut pas dire que c'est faux, mais non, ça veut pas dire que c'est faux. Le Christ se prononce pas, mais il renvoie quand même à Pilate. C'est lui qui l'affirme, mais...
Quand on dit c'est toi qui le dis, ça veut dire c'est toi qui le dis, mais c'est pas vrai. Enfin, tu le dis, mais moi j'y crois pas. Enfin, mais là c'est toi-même qui le dis.
Ouais, alors je suis pas.
C'est comme si Jésus disait, donc on dirait que Jésus veut dire à Pilate, tu sais bien que je suis le roi des Juifs.
Mais en fait, c'est un peu dangereux de trop appuyer sur le même, parce que je sais pas quelle est la version originale, donc ouais, c'est un peu dangereux. Et c'est vrai que le développement de ce dialogue dans l'évangile de Saint Jean montre que justement Jésus ne veut pas tellement de ce titre de roi des Juifs dans le contexte où on est. C'est-à-dire que... Oui, puis parce que Jésus ne vient pas pour être roi d'un royaume terrestre, donc ce titre de roi des Juifs, c'est pas qu'il n'en veut pas du tout, parce que, comme on disait, le Messie est roi, donc comme il est Messie, il est roi, et il est roi de toutes les nations, donc il est aussi et en premier roi de la nation juive, du peuple élu, mais là, dans le contexte, il ne veut pas trop reprendre ce titre, parce que c'est un titre très politique, et que voilà, les grands prêtres ont un peu monté en épingle pour le présenter comme un titre de rébellion par rapport à l'enfer, alors que le Christ ne vient pas pour se poser comme un concurrent de l'enfer. Sa royauté ne s'exerce pas comme ça.
Il va falloir voir que ça n'est vrai, il est posé la question, es-tu le fils de Dieu, c'est ça, ou
ouais. Es-tu le Messie, le fils du béni, donc le fils de Dieu. Enfin, bon, ben, il est là, hein. On va pas sortir de Jérusalem aujourd'hui, hein. Alors, bon, je l'ai déjà dit, mais je me répète, dans Saint Jean, il y a quand même aussi quelque chose de très dramatique, c'est qu'à la fin, donc les grands prêtres et les scribes sont venus donc accuser Jésus pour convaincre Ponce Pilate de vraiment condamner le Christ, finissent par dire « Mais nous n'avons d'autre roi que César. » Enfin, on trouve ça dans la passion vendredi saint. Et ça, c'est terrible comme phrase, parce que ça vient des autorités religieuses d'Israël qui porte une religion dont le principe est « nous n'avons d'autre roi que Dieu ». S'il y avait des changes dans le temple de Jérusalem, c'est parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le temple de Jérusalem avec une monnaie à l'effigie d'un souverain païen. Parce que dans le temple de Jérusalem, et normalement dans toute la Terre Sainte, le seul roi, c'est Dieu. Et ça remonte vraiment aux origines du peuple d'Israël, puisque quand le peuple d'Israël, au temps de Samuel, avait commencé à demander un roi, Samuel en était tout désolé, et Dieu avait dit à Samuel, mais ce n'est pas contre toi, c'est contre moi, parce que c'est moi qu'ils ne veulent plus comme roi. Et Samuel était un juge, donc c'est-à-dire quelqu'un qui gouvernait le peuple au nom de Dieu, mais il n'était pas roi parce que il n'y avait pas de transmission héréditaire de cette royauté. Dieu envoyait des hommes ou des femmes providentielles, donc on appelait les juges, pour guider le peuple d'Israël. Mais ces hommes et ces femmes providentielles, justement, apparaissaient, disparaissaient, qui montraient que le roi unique du peuple d'Israël, c'était Dieu. Et donc, ceux qui devraient être les garants, les protecteurs, les plus attachés à cette idée maîtresse de la religion d'Israël, à savoir ce qu'on appelle la théocratie, c'est le fait que c'est Dieu et roi d'Israël, et bien finalement, par haine de Jésus, ils en viennent à piétiner tout ça, et à aller à l'exact opposé, et à crier la veille de la Pâque, nous n'avons d'autre roi que César, alors que César est normalement, justement, par excellence, l'incarnation de l'idolâtrie, puisque on donne à un homme des pouvoirs divins ou semi-divins. Donc, finalement, ça montre jusqu'où la haine peut faire aller et comment, au nom de la haine, on peut être amené à piétiner toutes ses convictions et aller à l'encontre de ce qu'on croit pour avoir finalement l'arrêt de mort de Jésus enfin prononcé par Pilate. Donc cette phrase est toujours assez tragique aussi. Nous n'avons d'autre roi que César. Nous allons monter. Nous nous retrouvons donc le 19 mars, dans un petit mois, puisque dans deux semaines, c'est les vacances. Et donc nous parcourons le chemin de croix de Jésus, donc nous sortirons par la porte d'Éphraïm pour aller jusqu'au Golgotha. Et donc pour ceux qui veulent aller au Golgotha en vrai, donc je vous rappelle que dans un an, nous repartons en Terre Sainte. Maria, est-ce que vous m'avez les dates des prochaines choses? Le 19 mars, et ensuite... je pense quand même qu'on fera quelque chose le 2 avril et puis quelque chose le 16 avril. C'est comme ça. Bon, la patience, je pense qu'il faut quand même s'arrêter.